Bonjour, je suis Stéphane Montavon et nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Vous allez entendre Sorn.
Vraiment, c'est impressionnant comment elle peut se transformer.
Ça peut être une situation carrément de l'orage, mais l'orage, il ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. T'as quelque chose de tellement menaçant, avec plein de tonnerres, des éclairs, et puis il n'y a pas de pluie qui tombe. Et ça n'a jamais existé auparavant. Eh oui, et ça, c'est pour moi vraiment une des preuves. En même temps qu'elle nous perd, elle va nous donner un petit cadeau. C'est ce qu'elle va arracher, quoi, dans son passage.
Effondra. C'est un rue à l'ouest du vallon. Cette partie est très marécageuse. C'est un endroit qui s'effondre.
Il paraît que ce sont les eaux de la Sorne, précédées peut-être de quelque antique courant diluvien, qui ont perforé ces flancs du Mouron où nous allons nous engager.
Cette année, moi je vous l'ai dit, avant, on a eu 0 degré pendant des semaines en plein hiver à 3800 mètres. C'est du jamais vu, Sophie. C'est pas normal ce qui se passe, je vous jure. Et ça s'accentue, quoi. C'est sûr.
T'as vu le reportage demain ?
Voici quel fut l'ordre de la marche de notre caravane. Mon peintre aux jambes de cerf courait devant nous comme un lévrier, en sautant d'une pierre à l'autre. Venait ensuite le meunier, muni d'une planche, pour servir de pont au passage scabreux. Je suivais notre pontonnier d'un pas grave et circonspect, masquant sous une contenance recueillie quelques dispositions moins héroïques.
Partout il y a des crats. C'est un endroit qui est très pentu.
Le ministre Baïf fermait la marche, comme aumônier de l'armée, méditant éventuellement notre oraison funèbre en cas de malheur.
J'entends, on est à la grotte Sainte-Colombe. C'est une des trois sources. Attends, on en a quatre avec la grotte Sainte-Colombe.
La traversée du ravin formé par les eaux de la Sorne avait 10 à 12 pieds de largeur sur une longueur de près d'une demi-lieue. Dès ses premiers pas, on n'aperçoit que des objets alarmants. Et pendant toute sa route, il faut se passer de la vue du ciel.
Le prix de la Savoure.
On est en train de transformer la Terre en planète Vénus.
Par exemple, la Savoure, c'est une scierie. Le prix de la Savoure.
On a rarement vu ça à la surface de la Terre. Et ce qu'on sait, c'est qu'on n'a jamais vu ça à une vitesse pareille. Donc on est en train de charger un canon.
Tout près de ce prix, il y avait une scierie et un moulin.
Qui est tourné vers nous.
Le bâtiment existe toujours. Le ruisseau a été corrigé, donc il ne passe plus dans son état originel.
La lumière d'un jour plus triste que les ténèbres mêmes ne dardait qu'à regret ses faibles rayons à travers une voûte obscure formée par les branches de noirs sapins. D'épais buissons et des rocs sourcilleux hors de leur aplomb étaient suspendus sur nos têtes comme l'épée de Damoclès. À nos pieds, d'étroits rebords de rochers, encombrés encore par des pierres mobiles et glissantes, n'offraient que des sentiers périlleux qu'il fallait suivre au risque de tomber dans des fondrières profondes.
Devenir Vénus, en tout cas pour tout ce qui vit, c'est la mort.
Le premier faux pas aurait été ici le dernier.
Il y a beaucoup plus de gaz toxiques, type volcanique, avec du soufre, phosphate, de l'azote, irrespirable évidemment pour l'être humain.
Le plat du schlag, un mot allemand qui arrive là-dedans. Le schlag, donc, ça voulait dire battre. Et sur ce lieu dit, il y a des restes d'anciens fourneaux qui datent des années 600 et 700. Donc c'était des bas fourneaux. C'était là où on battait le fer pour le raffiner avant de l'emporter plus loin.
Des variations de température extrêmement brutales. La nuit peut faire jusqu'à moins 180 degrés et la journée plus 200. Un enfer de vent extrêmement puissant. On assiste à l'érosion d'énormes montagnes, effacées par l'érosion éolienne. C'est fou qu'il y ait encore du relief sur Vénus après tout ce temps.
Les corbets, une taillanderie, les courbes en patois, ça y corba. C'est un endroit où la Sorne fait un cours. Du temps du prince évêque, quand ils avaient bâti les forges, ils avaient bâti un atelier là, qui était une taillanderie.
Voilà Sorne.
Voilà la Sorne.
La Sorne.
La Sorne.
Sorne.
À Sorne.
Ton atmosphère, elle n'a pas résisté au vent solaire, aux radiations du soleil. Ce qui nous protège en grande partie de ces radiations, donc ces rayonnements à haute énergie, c'est la couche d'ozone, à moitié niquée dans les années 70-80, jusqu'à ce qu'on interdise les chlorofluorocarbones.
C'est le sujet.
Sorne. La colère.
Voilà.
Ça fait 10... Je dirais 15 ans.
Mmh. J'ai jamais tombé dans la Sorne.
J'ai jamais tombé dedans. Hein, ça c'est... Mais j'ai déjà marché dedans. J'ai déjà remonté la Sorne à pied. Hein.
Voilà. Remonter la Sorne à pied.
Ouais. Jusqu'à sous le pont, là. On jouait tout le temps. Ça allait de là jusqu'au barrage. Jusqu'à des endroits où il y avait des petites plages. On prenait nos barbies avec.
Il y a la Névat.
Le lac Vert.
Les prés, là.
Le pré du.
Sur le Mont-Toit, sous le Mont-Toit.
Le vieux pont.
Le grand Péka. Le grand Péka. Grand Péka. Ah, parce qu'on a aussi le petit Péka. Le petit Péka.
La belle étoile.
Les blanches fontaines. Le Pichou.
Le Jetou, c'était derrière le Jetou.
Le Perseur.
Le Mont de l'eau.
Gérat. Boiradri.
Boiradri.
Neupré.
Neupré.
On ne pourrait pas éradiquer la vie sur Terre, même en bousillant tout. Il y a des archébactéries jusqu'à 5 km de profondeur partout sur Terre, dans tous les continents.
C'est la Metneu. De Matène, justement, toujours battre le fer.
La vie, le maintien de la vie sur Terre est plus ou moins assuré. Par contre, on va devoir faire face à des conséquences qui vont durer sur plusieurs centaines de milliers d'années.
Au début, j'ai pensé très très spécial de vivre avec les pieds dans la rivière, une maison au bord de la rivière. On peut faire la pêche depuis la fenêtre.
L'environnement dans lequel on se sentait bien. Enfin, on aimait, on était attirés, on avait toujours envie d'aller dedans. Puis on faisait la plage, les barbies en vacances à la Sorne. On se faisait des mondes autour de la Sorne. Ah, on passait notre vie dans la Sorne.
Est-ce que la Sorne...
On mettait nos chaussures. Est-ce qu'elle est sournoise? Elle est dangereuse des fois.
Ça monte de 1 mètre. Et puis là, ça fait peur, quoi.
Très sornique.
J'habite au pied de la Sorne.
Ça dépend des saisons.
Elle coule le long de la maison. Il y a eu des périodes inouïes de grande eau. Le bois arrivait, bloquait les ponts. Il y avait un mètre d'eau dans le village.
Il y a l'endroit où je dis où le son il est hyper fort. Et puis après, il y a un endroit où il y a un peu un goulet.
Et quand je suis revenue et que j'ai redormi ce côté-là avec ce bruit de la Sorne, c'était un apaisement quand même, quoi.
Donc comme enfant, c'était des sortes d'émotions où la Sorne envahissait complètement le village, tu veux.
Si tu fais ce sentier là derrière, après, c'est hyper calme, quoi. Il y a un peu des pierres, ça fait un peu bas, un mini barrage. Et puis là, c'est toujours le calme, quoi.
Mon père travaillait là donc comme scieur et la scierie venait jusqu'à l'intérieur de la maison, donc il y avait toujours ce bruit de multiples, ce qu'on appelait le ruban, si tu veux, qui fait un bruit terrible, etc.
Comme chez le dentiste.
Un dentiste qui fraise. On le fuyait, ce bruit.
Des espèces de boules dans lesquelles l'énergie circule. Les cellules se déforment. Elles vont finir par se désagréger, se désintégrer pour former plus qu'une seule cellule. Une seule et immense tempête permanente qui tournera en même temps que la Terre, une tempête Coriolis.
À chaque fois, il y a un bruit un peu plus sourd quand elle tourne. Dès que la bille arrivait le long de la truc, alors ça devenait un bruit infernal.
Ces alternances entre le là où ça se court et puis tout à coup, tu fais trois pas et puis c'est calme. Ou bien quand il y a des pierres
et les pierres qui tapent, les pierres qui tapent contre d'autres pierres.
Ah ouais, c'est ça. On les entend la nuit des fois.
Ah oui, ça, on entend.
Je crois là, toute fin, les oreilles étaient mortes.
C'est un dragon.
C'est un dragon.
Sorne.
Pour moi, c'était clair. Moi, j'ai compris. Cette rivière, elle n'est pas toujours paisible.
Pour arriver à cette tempête, il suffit de continuer à faire ce qu'on fait déjà. Retenir de plus en plus l'énergie du soleil.
Dissolution dans le sublime.
De la pluie, des tempêtes, des tornades, des cyclones, des typhons, des ouragans, des raz-de-marée, des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, des vagues de froid.
D'être englobé dans le naturel,
Donc après 35 ans de vie à l'étranger, à Zurich, à Genève.
Comme on fait un, on est aussi agrandi, à la fois agrandi et inclus.
Aïe, 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 aïe.
Des îles et des côtes noyées sous les eaux, les extinctions d'espèces, la désertification à grande échelle, les réfugiés affluent de toutes parts.
Ouais, il faudrait absolument que je dise à mes frères un jour de revenir ici, qui veulent tomber sur le cul. Et il y avait trois fers au bord de la rivière. Parce que la rivière n'est pas
Bah aujourd'hui, ça serait encore un terrain de jeu pas mal pour les gamins, en fait.
Ah ben ouais, magnifique. Et puis il y avait une vie, il y avait de la vie. Ça grouillait de personne. Bon, vous dire aussi que l'usine faisait pas mal de bruit. Les gens qui causent, les enfants qui crient, voilà quoi. Il y avait beaucoup de monde, quoi, en fait. C'était surtout des sons de... C'est un quartier qui vivait beaucoup, beaucoup, quoi.
C'est un pays de petites vallées, de cluses, de plus sèches, d'endroits presque un peu mystérieux.
Et puis il n'y a plus rien. J'ai l'impression que les hautes herbes, c'est tout. Là, il y avait un petit peu de carbure à ciel ouvert. Dégueulasse donc, hein.
Fantradable abyss, plunged in the womb of unoriginal night and chaos wild.
Ça dans des bouteilles, on en prenait un peu, tout fermait la bouteille, un peu de flotte, t'attendais, boum, ça pétait, on allait aux truites comme ça, on foutait ça dans la rivière, ça les assommait pour les ramasser, pour les dégoûtants, quoi.
Retour au potentiel de naissance, remonter le cou, remonter la Sorne. Là. On dit que quand on est plein, on est entier. La vie fait qu'on perd ce potentiel de départ. Ici, ce qu'on fait, c'est remonter la source.
Des fois, elle est sauvage, elle est folle, elle fait beaucoup de bruit.
Parvenue non sans peine ni sans crainte, au bord d'un précipice où la Sorne fait une triple chute pour se jeter dans son lit inférieur.
C'est sa capacité à modifier son environnement qui fait que le climat se dérègle.
Il fallut changer de route et gravir les flancs escarpés d'un rocher couvert de broussailles.
Dans sa civilisation, on a appris à tout faire avec du pétrole.
On ne franchit ce passage à peine praticable pour des chèvres qu'en s'accrochant aux buissons et aux épines. Après quoi, nous regagnâmes le lit inférieur du torrent en descendant avec autant de peine que nous en avions eu pour monter. On passe ensuite la Sorne sur quelques planches pour remonter son cours et se rendre au pied de la cascade.
Quand tu es sur la terrasse, tu habites à la campagne et puisque la Sorne ici, elle coule entre deux maisons,
c'est tellement fort.
Il y a une petite chute, tu cherches le calme total. Donc j'ai même déjà essayé de jeter des pierres dedans pour un peu empêcher cette chute.
Je l'entends quand j'ouvre la fenêtre.
Tout d'un coup, tu l'oublies et c'est là. J'ai l'impression que ça amène de l'énergie vers la maison.
Quand tu fais rentrer,
ici, elle arrive. Bon, c'est peut-être aussi un peu du feng shui. Mais là derrière, il y a quelque chose de plus mystérieux. Est-ce que ça enlève
c'était
un peu
un
de
bruit,
l'énergie là,
ouais, qui occupe pas. L'arrière-fond sonore du village vraiment, vraiment fort. Puis qui arrivait jusqu'à cette fenêtre. Et au mois de mai, je ne l'entendais pas aussi fort. Et dans le courant de l'automne et l'hiver, c'est là que tout à coup, je me disais, mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ouais, c'était presque un peu menaçant. Puis quand elle est vraiment très haute, sous le petit pont, il y a des fois en hiver, c'est spectaculaire. Parce qu'il y a un peu des rapides et pas mal d'écume.
Il faut s'imaginer une mer avec une pente très douce, dans laquelle il y a de grands récifs coralliens qui font comme des cloches et qui abritent une vie très riche. Les ammonites, les ichthyosaures, qui ressemblaient aux dauphins mais qui étaient des reptiles, les pliosaures, qui ressemblaient aux dinosaures mais qui étaient exclusivement marins et qui avaient des nageoires, quatre nageoires.
Tous ces environs sont parsemés de fermes et d'habitations de la dépendance du couvent. Des chalets solitaires s'élèvent au milieu des plus fertiles pâturages. Ils sont ombragés par de grands arbres fruitiers et autres, qui mêlent les différents verts de leur feuillage à l'or des moissons et à l'émail des prairies.
Pourquoi un paysage te crée de l'émotion? Quand je disais Mondrian, je dis l'émotion, c'est des lignes verticales, des lignes horizontales qui se croisent avec des bouts de couleurs.
au début de l'histoire, au Jurassique supérieur, quand la Pangée, donc l'ensemble des continents, s'était réunie en un seul, quelques dizaines de millions d'années plus tard, cet immense continent unique s'est cassé en plusieurs morceaux. La région du Jura où on se trouve ici, elle était sous le tropique du Cancer, le tropique nord.
La vue parcourt avec délice ces sites arcadiens et les belles nuances de verdure que lui offre cette contrée montueuse et bien boisée.
Tu te dis, je vais jouir d'un paysage, donc tu le mets dans ta mémoire autrement.
Moi, c'est le paysage ici, c'était très exotique, quelque part. À Zurich, il y avait ce lac, il y avait les montagnes derrière.
La Syrie, pour la mobiliser, il y avait de l'eau de la Saône qui était détournée, donc il y avait un canal.
L'harmonie de ces diverses teintes charme l'œil, comme une symphonie mélodieuse flatte l'oreille. J'ai souvent remarqué que l'accord des couleurs et celui des sons ont une affinité singulière. À cet égard, j'aurais été du système du père Castel, et j'ai souvent regretté de ne lui avoir pas vu exécuter une sonate sur clavecin oculaire. Un lien indéfinissable, uni au fond de notre sensorium, ces ébranlements des fibres de la vue et de l'ouïe. Et il y a un rapport confus entre l'impression que produisent les nuances des couleurs et les accords des sons.
On peut imaginer une mer turquoise avec tous ces récifs coralliens, des plages très plates et très blanches, des carbonates, climat tropical très agréable, avec des dinosaures géants hein, qui viennent manger des tapis d'algues sur les plages. C'est comme ça qu'on a retrouvé leurs empreintes, comme la grande dalle des dinosaures à Moutier. Ils ont complètement piétiné le sol parce qu'ils venaient se nourrir là régulièrement. L'intérieur des terres, les arbres n'existaient pas. Donc on a des fougères géantes, des prêles dont on sait que ces grands dinosaures herbivores se nourrissaient aussi. Et puis on sait pas beaucoup de choses de plus sur ce qui n'était pas sous l'eau, parce qu'il y a que ce qui est sous l'eau qui est vraiment enregistré géologiquement.
Je me suis même un peu sentie enfermée ici d'abord, parce qu'on est tout au fond du trou, il y a ces collines.
Une grande variété de coraux, d'anémones, de mer, de poissons, de toutes sortes de coquillages qui ont été décrites par Jules Thurman au XIXe siècle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des fonds marins peu profonds qui ont été soulevés à plus de 4, 5, 600 mètres d'altitude au fil du temps.
Voir dedans en regardant dehors. Pas par hasard, c'est ça que moi j'ai vu, parce que moi ça m'intéressait. Il y avait un chantier en cours, un peu à moitié abandonné, mais pas mal de ces cabanes de chantier, puis du matos un peu recouvert de mousse. Aussi par un chantier qui peut-être va être repris, ça, attention, on ne sait pas. Il y a peut-être la possibilité d'être abandonné. C'était un peu une menace quand même que ce chantier était abandonné. Enfin, il y avait quelque chose, ça pèse d'un... Attention à ce chantier abandonné. Ouais, on voudrait bien qu'il soit repris. Enfin, ouais. Bah, ça a commencé par ce chantier abandonné.
Le pilier d'un ervelier, il est fait de millions de petites sphères de calcite, les zoolites, fabriquées par le brassage des coquillages et des coraux morts par les vagues. Et les vagues les ont roulées dans des tapis d'algues. Et ça fait des petites sphères très dures, très résistantes. Collées ensemble, ça fait les calcaires les plus durs qu'on est dans le paysage et qui font cet immense pilier qui sort à la verticale au milieu de la cluse.
Il n'y a pas eu gros flux. Si on prend les années 70, il y a eu beaucoup de départs. Pour le travail, il y avait les forges qu'on fonctionnait pendant 500 ans. Et puis après, il y a venu l'horlogerie derrière. C'est resté un village industriel puis en même temps paysan.
C'est un témoin de l'ancien océan, de la Tétis, qui était ici, avec un rivage brassé par les vagues.
Pour lui, c'est plutôt un sentiment d'être protégé. Moi, j'aimerais bien vivre en haut d'une montagne. J'aurais rien contre ça.
On sait qu'ils s'alimentaient de ces tapis d'algues parce que leurs traces, leurs empreintes sont trouvées exclusivement dans des niveaux algaires. Et on en a même retrouvé fossilisées dans leurs estomacs.
En même temps, on reste aussi toujours digne, je ne sais pas si c'est le bon mot. Voilà, moi je suis là en bas, je suis petit et voilà, je suis plus petit que tout ce qui m'entoure et tout ça.
tu dois choisir ton camp, quoi, si tu veux. Soul, c'est tellement mieux. Puis même quand je tournais Win-Win, bah, Soul, voilà le paysage généreux qui est à la maison, ça s'ouvre jusqu'à la mer.
Le rivage nord de l'océan Tétis, extrêmement étendu, qui allait jusqu'à l'actuel Himalaya. Un océan connecté avec le reste des océans du monde, mais très peu profond.
C'est un canal assez puissant, d'1,20 m de large, 1,30 m, 1,40 m de profondeur, si tu veux, bien encastré, qui arrivait, puis qui faisait tourner la turbine, et on peut voir là, juste dans la face de la maison, comment elle ressortait, puis l'eau finalement rejoignait la Sorne.
Ensuite, pendant très longtemps, on n'a pas d'enregistrement géologique, il n'y a pas de sédimentation, parce que ces terres ici ont émergé, elles étaient bien au-dessus du niveau de la mer.
Ici, dans le paysage, il y avait la scierie de mon père, puis après, dans la deuxième partie, il y avait tous les longs bois qui étaient entreposés, et juste derrière, à gauche, il y avait un grand espace où ma mère cultivait son jardin. Donc pour passer d'ici, il fallait longer la scierie, puis pour aller au jardin, il fallait traverser ce canal, quoi.
Le début de l'ouverture du fossé Rhénan crée des failles nord-sud au tertiaire, très importantes, très marquées, dans lesquelles coulent les premières rivières.
Et je pense que j'avais à peine 2 ans. Il y avait ma grand-mère qui, à un moment donné, a vécu ici. On allait les 3 au jardin. Je suis revenu sur mes pas et je suis tombé dans ce canal. J'étais habillé tout en rouge, complètement noyé dans le canal. J'ai basculé. Tout d'un coup, l'ouvrier de mon père, il y avait 3 ouvriers italiens qui travaillaient avec lui. Il a vu cette tache rouge. Donc, il a plongé dans ce canal et puis ils m'ont rattrapé 1 mètre avant de rentrer dans la machine. Le drame absolu. Et par chance, j'avais mangé du fromage parce qu'on faisait toujours les 9h avec mon père qui mangeait à 9h30.
Cet océan s'est enfoncé sous la croûte européenne et a simplement disparu. Cet océan Tétis, il a amené avec lui l'autre rivage qui était de l'autre côté de l'océan, mais comme l'océan a disparu, 2 continents se sont retrouvés face à face.
Ça a fait une boule dans mon... Je ne me suis pas noyé. Je me vois encore debout sur la table, tout mouillé, puis je me vois debout. Mon père, je pense le mois après, il a coupé ce canal.
Et comme l'Afrique était entraînée par cet océan Tétis, elle a fini par collisionner avec l'Europe et puis soulever les Alpes en 3 grandes phases de compression.
Il a rebouché, il a mis l'électricité et à ce moment-là, il y a eu toute une transformation.
Voir le cours de l'eau bouger ou pas. Il y avait un endroit où l'eau était retenue. On a l'impression qu'elle était stagnante. Puis en même temps, comme il y avait des feuilles, de temps en temps, on voyait bien que les feuilles bougent, mais très très lentement. Il y avait du mouvement imperceptible. Ça continue à bouger quand ça a l'impression de stagner. Mais que non, que ça bouge en fait. Peut-être ça bouge lentement, mais ça bouge. Ouais. Puis à côté, t'as la Sorne qui descend. Bon, moi je remontais, hein, donc la Sorne, elle a un flux assez fort.
La base du Cervin, c'est la plaque européenne. Au milieu, on a une couche noire extrêmement massive, c'est l'océan Tétis qui est resté pincé entre les deux. Et la grande pyramide du Cervin, c'est des schistes paléozoïques africains, c'est la plaque africaine qui est posée littéralement sur la plaque européenne et qui l'a écrasée, qui a créé tous ces plis qu'on connaît dans les Alpes où les roches sont traînées sur des dizaines de kilomètres et retournées plusieurs fois les unes sur les autres, comme un duvet qu'on enroulerait puis qu'on chiffonnerait dans tous les sens.
Il y avait chaque fois une main qui arrivait derrière la balustrade et ils lançaient tout ce qu'ils trouvaient dans leur maison à la rivière. Des 6 enfants quasiment qui suivent d'une année à l'autre. Et on dormait tous plus ou moins dans la même chambre. Tous les soirs, on racontait des histoires interminables où on se disait, mais ils lancent un matelas à travers le truc, si tu veux, puis ils sautent sur le matelas et puis ils partent à l'aventure. Donc ils passent toutes les strates de Léman, Bâle, dans la Birse, et puis à Bâle, et puis dans le Rhin, et puis jusque dans la mer du Nord.
Notre région, elle a dérivé vers le nord. Elle est passée justement du tropique nord à des latitudes toujours plus hautes et du coup des climats toujours plus froids. Là, on est dans une zone subtropicale, des grandes zones marécageuses avec des ancêtres de l'hippopotame qui ressemblent à l'hippopotame, qu'on appelle les anthracotères, dont on retrouve les ossements dans la région, toute une faune de petits mammifères qui vit dans les arbres et une forêt, disons, luxuriante, intermédiaire entre le climat tropical qu'on avait au moment du dépôt des calcaires et le climat qu'on a maintenant.
Puis après, une interaction assez joyeuse avec la propriétaire du chien, là, qui voulait jouer. C'était une rencontre. Donc, il y avait une rencontre. Il y a eu une personne dans cette remontée-là. Ouais.
que les plus petits étaient fascinés, et puis les grands racontaient.
Je sais pas jusqu'à quel point on la rêvait, tout ça, mais je pense que j'étais peut-être allé à Bâle une fois, donc j'avais vu jusqu'au Rhin comment ça pouvait se passer. Mais tout le reste, c'était de l'imagination pure.
Ah oui, après, il y avait un pont. Il y a un petit pont très très moussu qu'on n'emprunte plus du tout. Une arche en ciment, en dur. C'est la première fois que j'allais au milieu de ce petit pont. Donc je faisais face au cours de la Sorne qui descend.
Cette forêt tropicale, qui est extrêmement acide, elle attaque le calcaire et au fil des millions d'années, des centaines de mètres sont érodés, dissous et ce qui reste, c'est les parties insolubles du calcaire, donc les quelques argiles qu'il contenait et des quantités importantes de fer et d'aluminium qui étaient contenues dans la roche et qui sont simplement pas parties. Tout le reste a été dissous, érodé, emmené par les cours d'eau vers les mers.
Et il y avait un peu cette idée du petit pont comme une sorte de pont de conscience, comme ça, d'enjamber le cours qui passe sous moi, et moi qui suis un peu à distance, mais qui voit loin aussi, hein, dans la remontée du cours d'eau.
Pourquoi on est revenu ici, quoi ? Moi, j'avais ma chambre ici en haut, puis il y a tout ce paysage-là en face, derrière l'église. Il y a eu un incendie de la scierie du collègue de mon père, quoi, qui était ultra violent. La scierie était complètement détruite et le bois volait jusque chez nous sur notre scierie. De ma chambre, ça éclairait la colline en face de rouge, quoi, tu vois. Donc, tu avais l'impression que toute la colline brûlait. C'est quelque chose d'une ligne de paysage qui te reste, mais comme une obsession, comme un peintre.
Il se passe plus grand-chose jusqu'au Pliocène. Les Alpes, qui sont déjà soulevées, continuent de se soulever. La collision entre l'Europe et l'Afrique continue. Nouvelle série de poussées. Mais la molasse, c'est-à-dire les débris d'érosion des Alpes, sont tellement lourds sur le plateau suisse, bloqués vers le nord par le fossé rhénan, où là c'est le socle même de l'Europe qui est à la surface et qui empêche tout plissement. Que la poussée se propage dans la seule zone qui peut encore se plisser, la région du Jura, sous laquelle se trouvent des grandes couches de sel qui favorisent le plissement. Donc c'est ici que la dernière compression des Alpes a lieu et on a le soulèvement de ces montagnes pendant plusieurs millions d'années qui forment ces montagnes rondes, ces coraux, ces coquillages, ces calcaires, algaires et justement tropicaux qui les soulèvent à des hauteurs de plusieurs centaines de mètres et qui créent nos montagnes et puis nos cluses creusées par les rivières. Quand les montagnes se sont soulevées, les rivières sont restées à leur place. Les plis sont arrondis parce que les roches ont pu glisser sur du sel.
Et quand on est revenu ici avec nos enfants, donc il y a une douzaine d'années, si tu veux, donc il y a la scierie de mon père, on a transformé, on a refermé la maison, on a dû refaire une façade.
L'érosion continue sur les montagnes pendant qu'elle se soulève.
Encore un problème entre nous de paysage qui n'est pas résolu.
Continue sur les bords, pas seulement au niveau de la rivière, et ces zones qui sont déjà très fracturées sont préférentiellement érodées, ça fait ces amphithéâtres avec beaucoup de grottes à l'intérieur, puisque justement l'eau s'infiltre dans ces failles, crée des cavités et au fil du temps les falaises reculent et mettent à nu ces grottes par le côté dont on voit plein de traces aujourd'hui dans les falaises.
Je me suis retrouvé à faire mon bureau dans la chambre où j'étais enfant, où j'avais vu l'incendie. Là, j'ai pris conscience de tout le chemin initiatique intérieur.
Ça vient des faunes toujours plus froides, pour finir même dans le passé beaucoup plus récent, par presque 2 millions d'années de glaciation, des faunes glaciaires, rhinocéros laineux, mammouths, tigres à dents de sabre.
Pour recapter cette énergie de l'enfance, c'est passé, nos enfants ont presque 20 ans, donc je suis ailleurs, j'ai plus besoin de cette énergie-là, je suis prêt à repartir, si tu veux, ce tour-là est fait.
Une caractéristique unique des calcaires, des roches carbonatées, c'est les seules roches qui sont solubles par l'acide carbonique de la pluie. Donc on a une érosion d'un type tout à fait unique, qu'on appelle la karstification.
Les enfants, si tu veux, ils sont arrivés à Zurich, de l'Éthiopie, et c'est pas très bien de déplacer des enfants, d'autant plus adoptés.
Le calcaire est une roche très particulière parce qu'elle fonctionne comme une éponge.
J'ai travaillé au village, après l'usine a déménagé à Glovelier, après je suis revenu au village, j'avais encore un atelier de mécanique, et ils ont déménagé à Glovelier, de sorte que j'ai été un petit peu brinque-ballé là, à la fin de...
T'as dû travailler sur des trucs, ça, dans 50 millions d'années, tu vois.
Il y a tout qui descend là en bas. Et ça tonnait de la pierre, quoi.
Il y Les micros, la microphone, la micro... Ouais, on fait du petit, on travaille vraiment dans le petit, hein. On commence par le plus grand, c'est 5 mm, quoi. Et on finit à 0,14. Donc, il y a des choses merveilleuses à voir, quoi. Comme des sourds, une dent de raie ou de requin qui provient de la joie.
La pierre qui descendait de la montagne, quand elle descend, quand il y a des belles pluies qui viennent là sur des rochers nés, des verrous.
Ça propulse, hein. Ah oui. Oui, ça va très loin, quoi. Dans ta tête, ça. Puis t'écoutes ça, tu fais ça, tu travailles là avec des musiques aussi que t'aimes beaucoup. Alors ça relie les deux, quoi, en fait. Voilà.
Du petit Montreux, tu l'entends, quoi. Tu vas en bas, où ça va dans le lac, hein, où t'as le casino. T'as le quai, elle descend, la pluie. Tu vois exactement, la pluie, elle arrive pendant 1 heure, 2 heures. Elle est violente, elle va. T'as les pierres, à la vieille ville, où c'est encore un peu village, où t'as les chutes. Puis avant que ça descende dans ce canal jusqu'au fond. C'est puissant. Je vous dis, c'est puissant, c'est beau, quoi.
Bon, mais la traversée des gorges, peut-être c'est là que c'est le plus alpin, le plus à pic, le plus impressionnant, le plus romantique aussi. Puis aussi le plus...
Dans les Alpes, ils vont recevoir des glacés sur la gueule, c'est sûr.
Colossal.
C'est plus des fleuves comme on connaît ici, des régions de montagne, c'est vraiment des fleuves, des grandes plaines. C'est lent, indolent, sans une masse comme ça qui se déplace dans un paysage plat.
Parce qu'il y a une intensité.
J'essaie de comprendre les rivières.
Une fois, ça c'était une fois que j'ai vu la Sorne, elle passait devant la maison.
C'est des fois quand je suis vraiment triste à Paris, dans ma boîte noire, je dessine de mémoire la Sorne.
C'est une curiosité géologique.
Oui, du déplacement.
Au milieu du bijou. Ouais. Il y a des blocs qui sont horizontaux.
Voilà. Et c'est exactement ce qu'on voit au bijou.
Et puis, dans cette partie-là, il y a des galeries.
C'est voilà. Juste, elles sont en parfaitement...
En hiver, il y a des chutes d'eau et ça fait des rideaux de glace. Une fois, je suis grimpé avec la chaîne.
C'est un exercice un peu redoutable, mais que j'évite de faire.
Derrière
les glaçons.
Oui.
Derrière ces rideaux de glace.
Les rochers de glaçons.
C'est des phénomènes.
C'est des phénomènes.
Soniques.
Et c'est des phénomènes qu'on peut voir. C'est vraiment étonnant. Au fond. En quelques jours, tu peux avoir des rideaux de rochers de glace énormes. En quelques jours, façonnés.
Derrière une forêt et une colline se cache un village, se cache une rivière, se cache une combe, se cache une pluie, des corbeilles, comme ça, avant les gorges du Pichou, cette espèce de maison, comme au Châteaubriand, quoi.
Là-bas en haut, contre ces belles sources, comme tu dis, Rudy, il y a ces rideaux de glace qui sont d'une profondeur dans la couleur d'un bleu, transparent, d'une magnificence, quoi.
Ce bruit de l'eau qui s'écoule, pour moi, c'est quand même le souvenir originel de mon enfance. Quoi. C'est ce bruit d'eau. Il y a trois rivières. Cool, donc il y a un bruit d'eau.
Peut-être que le monde va encore vivre un certain temps. Mais il faut tout de suite commencer de changer un peu nos sales habitudes. Quoi. Du style du fait des gobelets consignés, tu vois. Ah, c'est une catastrophe écologique quand même. C'est tous les déchets. Mais il y a un tapis de gobelets en plastique dans tout le village de Basse-Cour. Alors tout va dans la rivière, tu vois.
Et vous savez ce qui est bien quand il y a un changement climatique et puis il y a ces bonnes versées qui renversent tout et il y a toute la mer qui est nettoyée. Ça t'enlève tout, c'est tout nettoyé, ouais, c'est tout envoyé dans le plus grand.
C'est plus léger, hein, je regarde la sauce.
Il faut du gisement, il
quand
faut
je passe à Basse-Cour, comme ça,
de l'infrastructure, ouais, pour faire déplacer, pour faire aller le truc.
C'est quand même impressionnant, c'est
autre chose. Maison, c'est une dimension. C'est compliqué, ouais, tout ça. Ouais. Bon voilà, ça coûte son prix, c'est normal.
Et la source de la Sorne qui traverse le gorge du Pichou, la vallée de Sous-Saint-Hervelier. Et à l'Hervelier se jettent le Folpeta et l'Unéry, qui sont deux petites rivières qui se jettent dans la Sorne. Et dans ces deux confluents, il y a un bruit, quelque chose. Ces trois sons différents. Ces trois sons terriblement différents.
Quand on arrive aux forges, il y a une sorte de petit bis. Il y a même le surplus de l'eau qui coule de part et d'autre. Ouais, un bis qui a été construit un peu en hauteur. Quand elle est trop haute, ça dégouline, là, ça cascade.
Moi, pour pêcher des poissons, j'ai tout essayé, même aller en pleine nuit quand on voit rien, mais des amorces de dynamite, enfin, toutes sortes de choses. C'est vrai que quand je me concentre, j'arrive à me retrouver dans ces endroits-là que je connais de mémoire, mais de mémoire sonore.
L'eau fait son chemin à travers, non pas seulement en s'infiltrant dans les anfractuosités comme dans les autres roches, mais en dissolvant la roche progressivement. Et c'est ça qui donne naissance à ces gouffres, à ces grottes, à tous ces immenses réseaux souterrains qu'on connaît dans la région.
Si on prend depuis les Corbets, ensuite il y a la couleuse de la Chaux, le vieux pont. Depuis le vieux pont, il y a le mont. Avant, il y avait un pâturage, très beau pâturage.
Ma fille un jour est tombée.
Tu consommes du plastique.
Moi j'étais d'un côté de la rivière. Puis elle
je consomme du plastique. Je prends du plastique,
c'est parce que quelqu'un.
Puis elle m'a dit je traversais là.
T'aurais dû faire autre chose,
c'est
pas voulu.
C'est dangereux.
Parce que quelqu'un.
Après il y avait une petite descente douce.
Tu pourrais si tu voulais.
C'était un go d'un mètre et quelques. Ma fille avait 10 ans. Ouais. Donc elle commence à traverser. La trace dans la mousse de la pente douce. Des doigts un peu. Hein. Puis là j'ai vu, il y avait juste le visage. Qui ressortait. Tous les cheveux étaient mouillés. Bon, je l'ai vu descendre, glisser.
Ouais.
C'est quand même frais, hein, je dis, même en été. Par le souffle un peu coupé, tu peux plus appeler au secours. Ouais, je dis que ça peut très vite. C'est magnifique, quoi, je la vois glisser.
Et on arrive où l'usine de Blanchefontaine est construite.
Voilà, la main, sortir la gamine. Moi, je suis pas tombée. Elle a glissé, mais j'étais là. Donc ça s'est très bien passé, quoi.
Ouais, au lac Vert, c'est très fort. Il y a plein de sources hein, qui viennent pour la remplir, là. Ça vient de tous les côtés.
Évidemment, il ne fallait pas tomber dedans, parce que la Sorgue qui peut avoir 10 cm, ça devient une rivière assez dangereuse.
Après, quand on continue, il y a le mont de là, il y a le vieil Outhier encore derrière. Le vieil Outhier, pas très accessible, de mauvais rendement. Après, c'est le canton de Berne, et puis c'est les gorges du Pichou.
Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression de rentrer... dans une sorte de village retranché, dans un endroit hyper protégé. Juste avant Dervelier, il y a ces portes, ces grandes falaises là, reculées, inatteignables, protégées, lien avec le naturel. Une sorte de poche de liberté, où faire un peu ce qu'on veut sans surveillance.
Quand tu vis dans un village, il y a trois autorités. Il y avait l'instit, Charles Duplain, il y avait le curé de l'époque, le petit gris, et puis le maire, l'Adrien Metz. Donc c'était les trois autorités du village. Et puis le village est petit, donc tu peux le circonscrire. Tu sais, quand tu es dans le village protégé, quand tu sors du village, que tu es ailleurs. Donc ça crée une psychologie personnelle solide. Quoi. Ils sont noirs, les enfants, donc tout de suite, c'est pas simple. Déjà, c'est un choix d'adopter des enfants africains, mais j'ai fait beaucoup de films en Afrique. J'ai passé beaucoup d'années, beaucoup de voyages en Afrique, au moins une cinquantaine.
Ils étaient très très bien accueillis. Ils ont vraiment trouvé leur identité. C'est plus simple quand tu as des enfants d'être intégrés dans un village. Il y a vraiment un lien énormément ici entre les femmes de Souls et Nervelier. On est un groupe. Quand les enfants sont petits, c'est génial. Tu as de la place, tu peux aller dehors, faire du sport. Mais maintenant, c'est devenu difficile. Hein. Maintenant, ils disent tous, comme ses sœurs avaient dit à l'époque, je crois. Ce village pourri, je le dis franchement, hein, il n'y a pas de transport.
Moi, j'ai eu pendant 3-4 ans un atelier à Blanchefontaine, et puis des fois, je montais soit en vélo, soit à pied. Quand il n'y avait pas de pleine lune, finalement, mon seul repère, c'était les lunes blanches sur la route. Mais finalement, je me repérais plus avec les bruits de la rivière, parce que la Sorgue est longue de la route. Quoi. Puis je savais où j'étais par rapport vraiment au bruit de la rivière. J'ai fait cette rivière des milliers de fois pour aller pêcher quelques truites. Ouais, le bruit d'une voiture qui passe, finalement le crissement du pneu sur la route fait que d'un coup on n'entend plus le bruit de la rivière.
Moi je pense que je suis plus sensible aux forêts qu'à l'eau. Mais toi tu disais manger, et alors moi ça je le vis pas comme ça. Parce que si c'est manger, ça me fait penser plutôt à une expérience des Alpes. Au contraire, moi je me sens protégée ici. Dans le Jura il y a quelque chose de beaucoup plus maternel, de beaucoup plus doux. Je sais pas très bien pourquoi on est venu le chercher ici. La proximité de la nature probablement aussi. Avec cette idée que, avec le silence, recommencer à zéro, je sais pas, avec des trucs basiques. Moins d'activité, moins d'argent, pas de commerce. Qu'est-ce que ça donne quand on recommence avec quelque chose, on fait un peu moins. Tu fais ton jardin, t'as beaucoup les doigts dans la terre. C'est un temps qui est long ici. Le camp retranché, il peut pas avoir, il lui faut de l'eau, quoi, un truc nourricier.
Von Roll avait racheté Choindé, Rondé, les forges de Courandelin, les forges d'Andervelier. Le chemin de fer était là. Choindé, Rondé, Courandelin, c'était sur la ligne. Andervelier, c'était... Pour amener le matériel, il y avait un projet de chemin de fer. Ce projet-là a avorté. Comme il ne pouvait plus amener par wagon le matériel et puis partir avec le fer qu'il fabriquait, c'était plus rentable.
C'est essayer de la, finalement de la remonter, de remonter le cours de l'eau. Il y a une espèce de, comme ça, de mélodie, quoi. Finalement, qui disparaît quand la rivière devient fleuve. Donc, devient fleuve, ça veut dire se jette dans la mer. Quand une rivière devient finalement fleuve, c'est plus le bruit de la rivière qu'on cherche, mais c'est quand même le bruit de la mer, qui est quand même plus vaste, plus...
La Sorne, elle prend sa source au Genevet. Elle descend le talus des Genevets jusqu'à l'étang de l'Anneau. Depuis là, elle coule vers Bellelay jusqu'au gouffre de la Rougeau. Et puis là, elle disparaît dans les entrailles de la terre, dans la Rougeau qui est un des plus grands gouffres des Franches Montagnes. Et souterrainement, elle rencontre d'autres cours d'eau qui viennent d'autres endroits de l'est du plateau des Franches Montagnes. Et tout converge à Blanchefontaine, dans les gorges du Pichou, où on retrouve notre Sorne qui a coulé en surface depuis Bellelay, et puis souterrainement, les deux se rejoignent à cet endroit-là, avec plusieurs niveaux de grottes qui sont toujours enfoncés au fil du temps. La plus haute qu'on connaisse, c'est la Cracus, qui est en pleine falaise, presque tout en haut des falaises du Pichou. Plus bas, il y a la grotte des Rochers Bacon, où on a creusé plus de 100 mètres pour essayer de retrouver le cours souterrain de cette Sorne souterraine. Il y a la grotte de la Petite Chute, juste à côté, qui déborde que quand il y a les grandes crues, qui est reliée à tout ce réseau. Et puis tout en bas, la grotte des Blanchefontaines, qui peut cracher des dizaines de mètres cubes en crue et faire toutes ces cascades là qu'on connaît qui se jettent dans le lac vert où il y a le barrage juste au-dessus de l'usine des Blanchefontaines. Et puis depuis là, ça coule jusqu'à Andervelier, à travers les gorges des Forges, là, qui sont plus à l'aval, où on trouve aussi d'autres grottes. Bah, la plus fameuse, c'est Sainte-Colombe, qui est tout au bord de l'eau. Ça veut dire qu'elle est jeune. Elle est apparue tard dans la formation des grottes du Jura. Sinon, elle serait perchée, loin au-dessus de la vallée.
Celle-là, il faut la gagner. Il faut savoir où aller la regarder. Ben, elle est en partie visible depuis la route pour continuer de suivre la rivière. Et quand on arrive à la hauteur du tunnel, il faut descendre. Et on arrive au pied de la cascade, enfin pas tout à fait au pied.
C'est deux frères, un qui réussit, qui fait tout juste, et l'autre qui rate sa vie, puis qui fait tout faux. Mais c'est lui qui arrive à prendre la plus belle truite.
Cette cascade, on peut très bien la voir, mais du côté de Mundo, la belle étoile. Il y a des points de vue, là, où on a directement la vue sur la cascade. Mais pour y aller à pied, il faut passer par le long de la rivière. Avant qu'il nous roule la route, il y avait des échelles, et puis il fallait monter à travers les échelles, longer, il y avait des petits ponts le long de la rivière pour faire la jonction entre le petit val et puis la vallée de Dlémont. Il y avait la route aussi qui montait donc par Semplin. Le vieux pont qui se trouve avant Blanchefontaine, donc l'usine de Blanchefontaine, c'était le chemin qui montait pour aller à Bellelay.
Tu vas livrer un vrai combat, quoi, parce que tu sais qu'il y a une suite. Puis tu sais qu'elle sait, qu'elle t'attend. Puis tu sais qu'elle est maligne, parce qu'elle est grande, parce que tout plein de gens ont déjà essayé, mais que... Alors c'est une chose qui se prépare. C'est...
1835, c'était un large chemin. Je l'ai connu encore dans son état qu'elle était. Bah, c'était que des nids de poules. Dans les années 50, la route était goudronnée ici jusqu'à la sortie du village. Ça a été racheté par Vernier et que l'usine a pris un petit peu d'essor. Là, l'horlogerie repartait bien. Alors l'état de Berne avait goudronné 1 kilomètre. Donc ils passaient juste en-dessus des Blanchefontaines au début des gorges du Pichou. Et après le deuxième, ils ont goudronné depuis là jusqu'au tunnel. Et après, ils ont goudronné entre les deux tunnels. Après, ils sont allés jusqu'à la jonction de Châtelat.
Bon, tu peux l'apprendre par hasard.
L'hiver, il n'était pas entretenu. Les gens du Petit Val qui faisaient du bois amenaient le bois ici. Il y avait donc 3 scieries, traînaient le bois sur la neige. Quand ils avaient traîné du bois, c'était Noël, parce qu'alors on allait luger depuis le Pichou jusqu'en bas, plus loin que les Blanches Fontaines. Ah, c'était des pistes de luge fantastiques. Les virages étaient beaucoup plus secs. Ah, c'était tac, tac. Et après, ça s'est venu corriger une fois que ça a été goudronné.
Le bruit qui régnait dans les usines, Blanchefontaine, il y avait quelques petites usines au village, mais c'est vrai qu'il y avait ce bruit répétitif, métallique, ces odeurs un peu d'huile.
À la limite cantonale, il y avait une chaîne qui était à travers la route, qui n'était pas fixe. Ceux qui venaient depuis le Petit Val savaient qu'ils venaient dans une région catholique, et les catholiques savaient, en montant, qu'ils arrivaient dans une région réformée.
Tout ça dans une sorte de silence. Les gens ne parlaient pas. Fabriquaient des montres, des garde-temps.
Le paysage est sublime. Le sublime, c'est le travail de la nature, l'érosion. Tout ce qui a été fait naturellement, sans que l'homme le touche. Quand on passe là au travers, il y a comme une prise d'énergie. Le fait d'être surplombé, de sentir petit dans un paysage grandiose, mais surtout employer ses pieds. Ces gorges sont devenues tellement bruyantes, le samedi et le dimanche, le nombre de motos qui passent.
Peindre en blanc les vitres pour que les ouvriers ne puissent pas voir ce qui se passait à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui se passait à l'extérieur comme à Blanchefontaine? C'était qu'il y avait la forêt ou bien la rivière.
En fait, j'apprends à vivre tout entière. C'est pas bon, la spécialisation. C'est pas bon. Ça nous coupe de la diversité de ce qu'on est. Beaucoup de temps à travailler dans un tout petit domaine. Puis on travaille beaucoup dans un tout petit domaine. Puis on a l'impression que du coup, on n'est bon qu'à ça. Puis alors tout le reste de la personne, elle est bonne pour être jetée. C'est une méconnaissance de soi aussi.
Ce qui est sublime, c'est de grimper sur ces anciens fonds marins qui étaient sous l'eau, avec une richesse de forme incroyable due à la karstification, justement, ces millions de trous. Hein, et grimper ici, c'est surtout grimper dans des trous, alors que d'autres types d'escalade, c'est plus dans des fissures ou des choses beaucoup plus lisses. Ici, on a quelque chose qui ressemble à un réseau vasculaire. On compare souvent les réseaux karstiques au système sanguin d'une personne.
Une femme totale.
Peut-être quand ils auront 30 ans, ils vont revenir et apprécier. Voilà, maintenant ils veulent découvrir le monde.
Ils sont nés à Dervelier, ils commencent à se sentir à l'étroit, donc on a décidé d'aller à New York. Faire un choc, si tu veux, culturel, de se dire, toi, il y a un Dervelier, puis à New York. Quoi.
Quand ils étaient petits, il y avait toujours des enfants sur la place. Et puis l'école était aussi encore en fonction. Tout d'un coup, il y avait un moment où tout le monde est parti. Ils se sont quasiment trouvés seuls au village. Alors ça, c'était un peu triste.
Un peu un enfant singulier, tu ne trouves pas vraiment facilement ton chemin. Je voyais avec mes sœurs, si tu veux. C'est dur à 15 ans de vivre dans le Jura. La vie culturelle est pauvre, ça fait un peu exagérément. Moi, en vérité, j'ai toujours détesté tout ce qu'il y a entre. Quoi. J'ai adoré ce village, j'ai adoré être né ici. Puis j'ai adoré São Paulo, Brésil, ces grandes villes que j'ai rencontrées après en travaillant. Dans São Paulo, t'as l'impression que tu te couches le soir. Le matin, il y a une autoroute qui passe devant ta fenêtre. T'as jamais vu, ça se construit. Le paysage se transforme d'une manière extrême. Moi, tout ce qui est entre, c'est bourgeois. Même Zurich, même Paris, si tu veux. Quelque part, c'est encore trop petit et c'est local. Et t'as le sentiment de la propriété. Les gens disent, ça c'est chez moi, ça c'est chez toi. Et si le choc, quand je suis revenu ici, tu vois, il y avait le facteur, le fils du facteur qui a un chien, quoi. Puis il y avait le terrain était vague, quoi. Puis il venait avec son chien promener. Puis il laissait son chien chier chez moi, quoi. je me dis, mais quand même, tu vois, donc j'avais quand même un tout petit peu des réflexes de me dire, mais c'est pas possible, quoi, pourquoi il ose chier chez moi? Puis après, je me suis dit, le village lui appartient comme moi il appartenait, dans ce sentiment très fort du paysage qui t'appartient, quoi, tu vois.
On fait rien de sournois, pas ici, au contraire. On fait de la régénération, on travaille pour être heureux, la magie blanche.
Mon souvenir de village, les rapports sont plus cash. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas en Afrique, quoi? Les autres gosses d'école. Dès qu'un noir dépasse la tête et pose un geste que tu vois qu'il est pas gentil comme les autres, ça devient difficile, quoi. Et à Bienne aussi, là où il faisait du football, on a deux fils. Un très discret qui sort pas, qui reste dans sa chambre très solitaire, et l'autre qui va dans la vie puis qui confronte et qui... Ils étaient tout de suite là autour et il y avait tout de suite des bandes qui se réunissaient. Puis tu sens que c'est à fleur de peau très vite. Alors ce côté noir-blanc, si tu veux, que je connais bien, des États-Unis, de la violence raciste et tout ça. Mais si tu veux, en Suisse, à Zurich spécialement, il y a un multiculturalisme qui fait que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, si tu veux. On reconnaît pas le racisme. Les gens font... se rencontrent, font des repas africains ensemble. Il y a toujours aussi un rapport à la culture. Dans l'adoption, normalement, il y a, tu vois, je veux dire, tu dois faire quand même... c'est radical quand tu prends un enfant dans un pays puis que tu le mets dans notre pays. Tu dois couper les fils et adopter le nouveau pays et vivre et prendre les valeurs. Peut-être lié à une mauvaise conscience de l'adoption. On se dit, non, on va quand même un peu apprendre la langue, on va un peu écouter la musique, on va se réunir pour faire des repas éthiopiens et tout ça.
Ouais, mais là, on est par exemple pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai grandi à Zurich dans ce cours. Alors, grandi presque dans ce communautarisme.
C'est un peu des stations métaphoriques chaque fois. Ça, c'est des souvenirs de ce voyage que j'ai fait. L'écriture, elle a un voyage à part entière. Après, l'écriture, elle peut aller complètement ailleurs. Et puis maintenant, on a aussi un grand dialogue là sur cette affaire de Sorne qui n'était pas prévu quand j'ai fait mon truc de remonter le cours. Donc forcément, je pense que ça, je vais m'en souvenir. Il y a quelque chose qui va se dire là. Ouais. J'ai 4 saisons pour faire ça. Parce que depuis que j'habite à Indavoliers, mais j'avais pas l'idée de remonter la Sorne, j'avais l'idée de remonter le Folpota. Et puis tout à coup, ça s'est déplacé avec remonter la Sorne, remonter le cours. Donc là, j'en ai fait une. Et j'en ai encore 3 là pour aller jusque. Ouais.
Le go du nœud pris. Un go, c'est un trou dans l'eau, là où la rivière fait un coude et que l'érosion se fait, où il y a un peu plus de profondeur qu'ailleurs.
Moi, je me suis sentie bien protégée. Ça me manque des fois un peu ici, parce que ça rassure complètement. En même temps, j'ai trouvé ça ici fascinant dans ce village que à Zurich, voilà, il y a que les policiers qui sont ensemble et voilà, les gens qui ont adopté des enfants noirs sont ensemble, voilà. Mais ici, tu te retrouves tout à coup au bistrot avec des gens où tu communiques avec des gens toutes sortes. À Zurich, tu vois pas ces gens-là, t'es dans les avec les gens du cinéma et peut-être encore. Avec les gens, avec mes copines, jamais ce mélange. Alors ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Ça aussi des conflits. Moi, j'essaie toujours de réunir tout le village. Il y a aussi ça ici. Hein. Il y a des gens qui participent pas du tout, effectivement, qui haïssent ces alternatives qui sont venues.
En 56, sauf erreur, on avait eu jusqu'à moins 32 degrés. Il y en a, mais... ça vient, ça part, ça revient, ça repart. C'est mouillé. Ou bien alors tout d'un coup, il fait une série de secs, mais il ne fait pas froid. On a eu un bel exemple cette année. On avait eu 2003 qui avait été une année très sèche, très belle, très sèche.
Que tu te retrouves un peu où t'es parti, quoi, tu vois. Je trouve ça, il y a quelque chose d'un peu rassurant, c'est pas évident que je le fasse, mais de mourir où t'as commencé, je trouve ça pas mal.
Mais c'est nouveau que tu avoues ça, parce qu'au début, quand on est revenu ici, tout le monde lui a dit « Ah oui, Pierre-Anna, tu reviens à tes sources et tout ça ». Et t'as toujours dit « Mais non, c'est un hasard, j'ai pas besoin de cette énergie ».
Il y a quelque chose dans mon esprit qui intègre un paysage en un quart de seconde, quoi. Et tu vois, on se disait, c'était un peu autour de Pasolini, tu te dis, on filme 30 minutes Pasolini, puis 5 secondes le paysage, 5 secondes Pasolini, puis 30 minutes le paysage, tu veux. Donc moi, il y a quelque chose de fulgurant qui fait que j'appréhende la nature presque dans l'instant. tu t'apaises et tu regardes le paysage, comment tu le laisses rentrer. Comme je suis né ici, j'ai pas vraiment de distance par rapport à ce paysage d'ici. Tout est sublime, si tu veux, quelque part. Mais chaque bruit, chaque truc, voilà, après, il y a des petites corrections comme ça. La découverte de l'Afrique, c'était un peu le désert. T'arrives à une espèce d'essentiel que tu touches pas ici, quoi, si tu veux, en Afrique. Ça te nettoie complètement, ça te refabrique une page blanche. Tandis qu'ici, il n'y a jamais de page blanche, vraiment.
Les gens sont aussi venus parce que les maisons sont bon marché ici. Et c'est encore un endroit où, où tu peux vivre une liberté, où tu penses vivre une liberté que tu peux plus, tu peux pas te permettre ça à Bâle.
Beaucoup de vent. Avant, on avait le vent qui partait, on savait, on pouvait dire, il y a un coup de vent, donc il y a un orage qui vient. Maintenant, on regarde sur le téléphone si l'orage vient. On a perdu la sensibilité, justement, parce que ça s'est venu dérégler. Maintenant, c'est les mêmes phénomènes, mais qui sont plus courts. Ou qui sont plus longs et qui sont désastreux.
Je vous parle depuis ma grotte, du Pichou où on a trouvé refuge avec ma famille. Avec la dégradation du climat, le niveau des mers s'est élevé de plus de 100 mètres. Il y a la mer jusqu'au milieu de l'Allemagne. Cette mer, elle est chaude et polluée, toxique, avec des immenses courants, il y a des pillards. On peut pas s'en approcher. Dans un premier temps, les gens se sont réfugiés au bord de la mer, mais avec les tempêtes toujours plus fortes, ils ont dû partir.
Ce qui était drôle, si tu veux, j'ai débarqué ici en 2007-2008, et on prenait pour un nouvel arrivé. Dans cette période 1952 où je suis né, et aujourd'hui, ce village a pas du tout changé. Je suis questionné pourquoi ils venaient, tout ça. Beaucoup de Suisses allemands, un peu liés à Longomet, qui sont venus investir la ferme du Montois, si tu veux. Donc je vois que ça a un peu essaimé. D'un coup, une idéologie, puis tout d'un coup, tout un monde était là. Oui, une manière de penser. Ils avaient investi le conseil communal, c'est eux qui faisaient un peu la politique du village. Mon père, c'était un être ultra généreux, sympathique, si tu veux, qui m'a beaucoup contrarié comme gosse. J'avais l'impression, à 10 ans, il répondait plus à mes questions. Les feedbacks qui revenaient quand il avait sa scierie. Tous les Longomet, les gens des galeries, tous les alternatifs, si tu veux, du système, venaient sur sa scierie le voir. Donc je n'entends que des feedbacks heureux. Donc après, quand je les ai connus, on a fait des choses ensemble, si tu veux, parce qu'ils aimaient mes films un peu, genre les films de Solanas, Crise mondiale, les films de... Toi, j'ai fait des films idéologiquement bien critiques de la société de consommation et autres. Donc ils venaient voir les films. On a mené des combats ensemble, j'ai voulu sauver l'école. Quand nos gosses sont venus ici, si tu veux, c'était pour avoir une école dans le village, pour garder la vie.
On vit un peu sur un espèce de grand compost. Les seuls qui ont pu survivre sont ceux qui ont pu s'abriter suffisamment comme nous. Il y a un vent permanent qui balaye la planète et tout ce qui est exposé au vent est détruit très très vite. Le vent a balayé les montagnes, toute la végétation qui s'y trouvait a été arrachée et nous, au fond de la cluse, en tout cas on manque pas d'arbres morts. Quand il pleut à l'horizontale. La pluie, poussée par ce vent très rapide, attaque tout et creuse maintenant des grottes à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Il y a des immenses trous dans les falaises autour de nous qui sont apparus en quelques années. Grâce à la forme des vallées ici à Undervalier, où il y a quatre vallées qui se croisent en forme de croix, ça a créé une sorte de vortex où le vent est plus faible et où on a pu s'abriter, sinon on n'aurait jamais pu survivre. On a trouvé refuge dans des grottes en fond de vallée qui sont suffisamment abritées. On a pu sauver de la catastrophe quelques poules, quelques cochons, parce que eux, ils peuvent manger n'importe quoi. Les autres animaux, qui mangeaient que de l'herbe, ils ont disparu. Et les prédateurs ont disparu aussi, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger depuis longtemps. L'eau de pluie, on peut pas la consommer directement, ni celle qui sort des grottes, parce qu'elle traverse les grottes sans être filtrée. Heureusement, dans le fond de la vallée, on a un petit peu d'eau qui circule dans les alluvions, qui nettoie suffisamment l'eau pour qu'on puisse la consommer. On a pu faire un petit potager avec quelques légumes dont on avait sauvé des graines, et puis c'est comme ça qu'on survit.
93.1. Nous sommes sur Aligre FM, dans La vie est un roman. Aujourd'hui, vous avez entendu Sorn de Stéphane Montavon.